Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. La RAN, l'émission d'information locale de Canal B, eh bien, va commencer dans un instant et au menu, l'info du jour, que faire face aux chantiers nécessaires sur les bâtiments amiantés en Bretagne. Une interview pour annoncer deux événements portés par des communes sur le thème de la nature dans RAN Métropole. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, la rediffusion d'un reportage à l'Opéra qui accueille une exposition sur les marionnettistes et leurs créatures. Et puis, recommandation, deux soirées, ça se passe aux Ombres électriques. Bienvenue dans la RAN. Et vous le savez, l'émission d'information locale, elle commence toujours avec l'info du jour, une que je sélectionne pour vous parmi ce qui se dit dans l'actualité locale. Et là, ça nous vient de France Bleu Armorique qui relaie les résultats d'une enquête menée par la Chambre régionale d'agriculture. Plus de 1000 agriculteurs bretons ont été interrogés. Résultat, ils sont 92% à estimer que leurs bâtiments contiennent de l'amiante et tout autant à considérer cela comme un problème en lien avec le coût du désamiantage, environ 100 euros le mètre carré. Alors le sujet, il n'est pas nouveau. Il y a quelques années, des travaux réalisés pour le ministère avaient chiffré à 1 million de tonnes la quantité de matériaux amiantés dans la région. De l'amiante qu'on trouve dans les plaques de fibrociment ondulées sur les toitures, également en plaques planes, cette fois sur des bardages extérieurs. Pour revenir à l'enquête de la Chambre d'agriculture, un exploitant agricole sur trois se dit inquiet des risques de l'amiante pour sa santé. On rappelle que cette amiante, elle ne constitue pas un réel danger tant qu'elle est en bon état. En revanche, toute intervention sur le bâtiment peut libérer des fibres qui sont des cancérogènes avérés, d'où l'interdiction d'en utiliser depuis 1997. La suppression totale de l'amiante à l'échelle de l'Europe a quant à elle été repoussée pour le moment à 2032. La prochaine étape, à entendre Sébastien Guiochot, qui est chargé d'études bâtiments à la Chambre d'agriculture de Bretagne, eh bien, c'est de mieux accompagner les agriculteurs, je cite, « simplifier le cadre réglementaire et accompagner financièrement pour limiter l'importance de nos friches demain ». Et pour ça, il va falloir dégager des financements. Le président de la région Bretagne, Loïc Chesnais-Girard, souhaite lui impliquer le secteur industriel privé. Allez, après cette info du jour, on continue avec l'interview du jour. Caroline Déhay et Aurélie Filoche, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente Caroline Déhay, vous êtes la directrice de la médiathèque du Tempo à Vezin-le-Coquet, donc à l'ouest de Rennes. Et Aurélie Filoche, vous êtes directrice du pôle citoyenneté, vie associative et communication, cette fois à Chartres de Bretagne, au sud de Rennes. Vous avez en commun, c'est pour ça que je vous invite en même temps, d'organiser des événements qui font la part belle à la nature. Alors le premier, et qui commence vendredi 24 mai, c'est celui qui se déroule à Chartres de Bretagne. C'est jusqu'au 2 juin. J'agis pour ma planète, c'est le nom de l'événement qui vient en fait du nom de l'association avec qui vous avez imaginé cette programmation.
Alors c'est un événement qui a été initié par la mairie de Chartres de Bretagne avec effectivement cette association qui a été créée en fait pour porter l'événement. Donc c'est un événement dont c'est la 6e édition.
Et combien de personnes il y a pour faire vivre cette programmation qui est très riche, on va y arriver, mais vous êtes nombreux ?
On est assez nombreux, il y a une vingtaine d'habitants qui sont mobilisés sur les groupes de travail, puisque du coup on organise là depuis un an des groupes de travail avec à la fois des habitants, des associations locales, des collectifs et puis des partenaires aussi institutionnels comme les écoles ou l'école de musique. Donc je pense qu'on a bien une cinquantaine de personnes en tout qui ont été mobilisées autour de la programmation.
Donc ça c'est pour le côté organisation. Habituellement il y a quel public à se déplacer sur cet événement pour les 5 éditions précédentes ?
C'est assez tout public, un public familial. Après il y a des activités qui vont être proposées pour les adultes, mais aussi pas mal de choses pour les enfants et les adolescents. Enfin c'est assez varié, c'est destiné à tous les publics.
Il y a d'abord des choses à vivre sur toute la durée de l'événement J'agis pour ma planète et puis même au-delà, exposition, espace de détente, zone de dons, défis collectifs aussi, des défis vélos. On s'arrête sur les deux expos photos.
On a donc une première exposition donc là qui est déjà en place au Carré d'Art, donc qui se situe au Centre culturel Pôle Sud. Donc c'est un centre culturel qui est pluridisciplinaire, hein, donc il y a une médiathèque, il y a une galerie photo, une salle de spectacle et puis également des ateliers théâtre et art plastique. Et donc ça c'est une exposition qui se tient au Carré d'Art, qui a été réalisée par une artiste rennaise qui s'appelle Mouna Saboni et qui traite en fait de la crise mondiale de l'eau. Donc avec des photos qu'elle a prises en Jordanie autour du fleuve Jourdain. Donc en allant aussi à la rencontre des habitants, et donc là c'est la restitution de son travail.
Qui s'appelle Disappearance, donc ça c'est la première exposition. Il y en a une autre exposition photo à voir sur l'esplanade des droits de l'homme du 24 mai jusqu'au 30 septembre. Le public a le temps d'aller la découvrir, qui là nous ramène ici puisque ce sont des photographies tirées d'une collection de la municipalité.
Oui, tout à fait. Donc à chaque exposition, la municipalité achète une œuvre. Donc on a 150 photos comme ça qui font partie de la collection municipale. Et là, depuis un an ou deux, il y a une commission d'acquisition en fait, qui est composée à la fois d'habitants, d'associations et de services et élus qui se regroupent en fait, pour chaque exposition pour choisir une des œuvres. Et donc là, c'est un choix d'une quinzaine de photographies en fait, qui a été fait au sein de cette collection, qui sont du coup plutôt en lien avec la thématique écologique et l'environnement.
Il y a ensuite un programme très riche qui est à retrouver en ligne sur le site chartresdebretagne.fr. J'ai compté près de 30 propositions qui sont réparties sur 9 jours et 8 lieux. Alors parmi ces lieux, le Centre culturel du Pôle Sud, qui est bien connu, qu'on vient de citer, et puis des lieux qui sont encore à construire, puisqu'il y a ce site d'une future maison éco-citoyenne. À quoi il ressemblera ce lieu à terme ?
C'est un terrain en fait qui se situe donc sur Chartres de Bretagne, juste à côté de notre centre technique et de l'Escale Verte. Et donc il y a un bâtiment qui va être construit en 2024 et 2025, qui sera en fait un lieu de rendez-vous éco-citoyen dédié à tout ce qui est économie circulaire et transition écologique. Donc là, l'idée de ce projet en fait, c'est de construire aussi en fonction des envies des habitants. Donc là, on diffuse aussi un questionnaire en fait pour concerter et puis travailler avec eux pour proposer des activités en lien avec le réemploi, l'allongement de la durée de vie des objets, tout ce qui est mutualisation d'objets, récupération, réparation.
Et donc cet événement, là, J'agis pour ma planète, ce sera l'occasion pour les habitants de venir découvrir les lieux. Il y aura une présentation du projet qui sera organisée avec une collecte d'idées des habitants. Ça, c'est pour le dimanche 2 juin sur les coups de 14h30. Ce week-end, le festival J'agis pour ma planète, il va se lancer là vendredi à partir de 16h45 au Square de la Sèche avec un festival et une projection, et puis beaucoup de choses à vivre samedi et dimanche. Une braderie de la médiathèque, ça c'est le samedi, la projection du film Algues Vertes pour ceux qui ne l'ont pas encore vu le dimanche en soirée, et puis on s'arrête là-dessus, un temps fort jardin et biodiversité le samedi après-midi, là aussi plein de choses en lien avec la nature.
Oui, tout à fait. Donc il y a plusieurs propositions. Donc des habitants seront présents en fait pour échanger sur les trucs et astuces en matière d'économie d'eau et de jardinage au naturel. On aura également une proposition de Rennes Métropole autour du tri des déchets et du jardinage zéro déchet. L'association LAO proposera également de la grimpe d'arbres, avec l'idée aussi de parler des arbres, de la place de l'arbre et de la biodiversité qui y est liée. Et également la compagnie Océane, donc, qui est une compagnie de danse semi-professionnelle chartraine, qui proposera un spectacle autour de la pollution plastique à partir de 16h30.
Le week-end prochain, là, en l'occurrence le dimanche 26 mai, ce sera l'occasion pour les participants de tester une fresque du climat. Les fresques, ce sont ces ateliers collaboratifs qui visent à acquérir des connaissances souvent en lien avec le changement climatique. Ce sera la première d'une série de 3 fresques qui sont proposées tout au long de l'événement.
Oui, donc la fresque du climat, c'est une proposition qui a été faite par une habitante qui nous a sollicité au niveau de la mairie pour proposer cette fresque-là à son initiative. Donc c'est un atelier à base de cartes qui est assez ludique en fait pour comprendre les liens de cause à conséquence du réchauffement climatique et puis derrière proposer des pistes d'action concrètes. Et derrière, on aura également donc, un atelier Inventons nos vies bas carbone qui aura lieu le mercredi 29 mai, qui est également proposé par une habitante, où l'idée c'est aussi de comprendre en fait les leviers de réduction de notre empreinte carbone. Et enfin, dernière fresque, c'est la fresque du numérique qui est liée aux enjeux de sobriété numérique qui elle est proposée par les conseillers numériques de Rennes Métropole.
Et cette troisième fresque, eh bien, c'est le samedi 1er juin, week-end auquel on arrive puisque l'événement il dure 9 jours. On passe donc sur tout ce qui est proposé la semaine prochaine, mais c'est à retrouver dans le détail en ligne. On arrive à ce gros week-end des 31 mai, 1er et 2 juin. Il y a un super BD concert inspiré de la BD Algues Vertes. On y revient, ça c'est le vendredi 31 mai à 21h au Pôle Sud. Et samedi 1er et dimanche 2 juin, deux temps forts, cette fois sur les thèmes des mobilités douces, puis du réemploi et de la réparation. On donne un peu envie aux auditeurs, on leur dit ce qu'ils vont y trouver sur place.
Alors, mobilité douce, donc ça a lieu le samedi 1er juin donc sur la place de la mairie. On a une grosse programmation autour du vélo avec différents conseils qui peuvent être apportés donc, par la maison du vélo mobile, donc, qui est l'offre de location de vélos de Rennes Métropole. Un parcours de prévention vélo qui est plutôt destiné aux enfants mais qui peut fonctionner aussi avec des plus grands dans l'idée voilà, d'apprendre un peu le code de la route, les bonnes pratiques en termes de vélo. Des ateliers d'auto-réparation avec la petite reine. La possibilité de venir graver son vélo pour lutter contre le vol en fait en l'identifiant. Et puis, donc ça c'est aussi un axe fort de notre programmation, un espace trucs et astuces éco-citoyens, où là c'est les habitants en fait qui viennent partager leur expérience et leurs bonnes pratiques, leur matériel, les applications pour faire des voyages à vélo, ou aller faire ses courses à vélo, etc. Il y aura également les résultats du défi Mets à vélo, puisque donc c'est un défi sur lequel la commune de Chartres-de-Bretagne s'est inscrite sur tout le mois de mai. Voir le nombre de kilomètres qui a été réalisé sur le territoire de Chartres-de-Bretagne durant le mois de mai. Et puis également la présence de l'Agence locale de l'énergie et du climat sur le conseil en mobilité pour aider les habitants en fait, à concevoir leur parcours de mobilité du quotidien autrement qu'en voiture individuelle. Et puis pour la dimension ludique, pour les enfants, un manège à pédales avec animation musicale qui sera proposé par l'association Bille de Boise.
Le cabaret cyclette, c'est le nom de ce manège à pédales que les habitants pourront tester.
Pour le temps réemploi et réparation, on en a parlé, c'est un peu d'être un préalable au projet de maison éco-citoyenne. Donc on a le collectif du Repair Café, qui est un collectif d'habitants qui proposera des ateliers de réparation. Donc vous pouvez venir avec vos objets cassés et ils vous aideront à les réparer. Il y a également un atelier couture durable qui est proposé par l'espace citoyen pour faire par exemple des lingettes de nettoyage ou des tote bags. Il y a des élèves de l'école auditoire qui seront présents pour proposer des jeux autour d'une mallette qui s'appelle Roule ta boule. Donc, qui sont des jeux à destination de tout public autour du réemploi et du recyclage. Une braderie des services municipaux pour réemployer des objets qui ont servi mais qui aujourd'hui dorment dans des hangars ou des locaux de stockage. Un espace dons et trouvailles qui en fait sera pendant la durée du festival au Pôle Sud et qui sera donc pour le dernier jour mobilisé sur le temps réemploi et réparation et derrière qu'on pourra retrouver sur le site de l'Escale Verte pendant tout un mois. Et l'idée c'est en fait de tester cet espace-là un peu comme une cabane à dons pour voir si c'est une proposition qui pourrait aussi être faite de manière plus durable dans le cadre de la maison éco-citoyenne. Il y aura également un spectacle qui est proposé par la compagnie Dédale de Clown, donc qui est une compagnie brestoise. On essaye de travailler avec des artistes locaux aussi pour l'organisation de ce festival. Donc spectacle de clown qui se passe dans l'esprit aussi recyclerie, déchetterie.
puisque l'histoire c'est la suivante. Dans la rue, deux ouvriers trient un tas de décombres avant de se prendre à un jeu de construction, une comédie burlesque où chacun s'invente son petit chez soi, transformant cet amas d'objets en habitation de fortune. On a essayé de donner un aperçu, mais le détail de la programmation est à retrouver en ligne pour cet événement. J'agis pour ma planète, qui est organisé du 24 mai au 2 juin à Chartres de Bretagne, une ville qu'on quitte pour se rendre à Vezin-le-Coquet, à deux pas de Rennes. Et à Vezin, il y a donc ce super équipement municipal, c'est le moment de le dire au passage. Le Tempo, c'est une médiathèque que vous dirigez, Caroline Déhay. Et qui pilote donc cet événement, les Jardins Enchantés? Il y a un lien entre nature et culture?
Oui, tout à fait. Donc en fait, effectivement, donc je suis responsable de la médiathèque du Tempo. Donc dans le Tempo, on va aussi retrouver d'autres salles municipales qui sont...
À disposition,
tout à fait, des associations de la ville qui sont assez nombreuses. Et donc, effectivement, le Festival des Jardins Enchantés, c'est pas qu'un festival littéraire, c'est un festival surtout culturel, avec une majorité culturelle et une minorité environnementale. Mais l'environnemental, on le retrouve chaque année, à chaque édition dans ce festival. Le thème principal, évidemment, c'est la nature. Et chaque année, on va avoir un thème un peu plus spécifique. Et cette année, pour cette cinquième édition, on a essayé en fait à chaque action, à chaque atelier, de faire quelque chose autour des oiseaux, donc de faire une proposition autour des oiseaux.
Donc le thème c'est envolez-vous.
Le thème c'est envolez-vous, effectivement. Donc là je peux peut-être du coup détailler un peu plus nos propositions. Donc le festival a lieu principalement sur deux jours, le vendredi 31 mai au centre, donc le Tempo, donc dans la médiathèque. Là le thème des oiseaux va se retrouver notamment sur, par exemple, la drôle de conférence. Ça va être une conférence ludique qui va être en lien, en fait, avec notre musée numérique qui s'appelle la Microfolie. La Microfolie, voilà, c'est un dispositif national qu'on a la chance d'avoir à Vezin-le-Coquet. On est deux ou trois en Ille-et-Vilaine à l'avoir.
Avec des casques de réalité augmentée, c'est ça?
C'est ça, exactement. Et du coup, on va avoir plein de choses, en fait, sur tablette, projeté en fait avec un vidéoprojecteur. Et donc la compagnie Edgar Poch va venir en fait présenter certaines œuvres, donc c'est ça en fait l'idée du musée numérique, certaines œuvres en lien avec la nature et les oiseaux. Donc là ça va être plutôt la nature au 18e et au 19e siècle. On va avoir aussi le vendredi 31 mai, on va proposer en fait aux habitants de Vezin et autres aussi, on va proposer en fait une déambulation dans la médiathèque pour venir découvrir toutes les expositions qu'il y aura. Il y a en particulier, et moi j'ai un gros coup de cœur pour cette exposition, l'exposition de l'artiste qui s'appelle Élise Meng.
Je crois qu'elle est de la région rennaise.
Tout à fait, elle est d'Échrel, donc effectivement pas très loin. Et Élise Meng fait un travail assez incroyable. Alors c'est un travail d'abord de digigraphie. En fait c'est une photo.
Numérisée.
Voilà, numérisée avec une qualité haute définition assez incroyable. Si bien que, donc elle fait un travail avec des plumes, donc. Et
on a l'impression de les voir avoir vu l'exposition.
Oui, vous avez vu aussi, exactement. Donc l'exposition est assez incroyable. Et donc elle reste, donc là ça fait deux mois qu'on l'a, et puis elle reste jusqu'au 3 juin. Donc on a ça, on a aussi une exposition d'une association vésinoise qui s'appelle la CHVB, une exposition d'art plastique faite par les enfants de Vezin. On a une association aussi qui s'appelle Bretagne Vivante, voilà, qui vient exposer du coup sur les oiseaux plutôt de nos jardins. Puis pour le vendredi, pour terminer, on a aussi des lectures à voix haute proposées, voilà, par le groupe de lecture d'habitantes de Vezin autour des oiseaux.
Peut-être dire avant d'arriver au samedi que ce que les habitants ne verront pas forcément, puisque c'est dans l'école de Vezin-le-Coquet, c'est cette fresque qui va être inaugurée en soirée le vendredi.
Oui, tout à fait, effectivement. Sont invités les parents d'élèves de l'école élémentaire Tabarly. Il y aura une inauguration d'une fresque qui a été créée par la compagnie Monopulpo. Et les enfants qui participent au temps périscolaire, et également les adolescents de l'Escale Jeune à Vezin. Et en fait, voilà, tous ces enfants et ces adolescents ont été accompagnés pour créer une fresque géante. Ça a eu lieu la semaine dernière. Et donc, on profite du festival pour présenter et pour inaugurer cette fresque avec la compagnie.
Il y a des oiseaux sur la fresque ?
Il y a tout à fait, tout à fait. Il y a des oiseaux. Alors c'est et des oiseaux qu'on peut trouver en France, mais aussi des oiseaux qu'on peut trouver d'Amérique du Sud. L'idée, c'est aussi encore une fois d'avoir vraiment ce lien avec la nature et pas que chez nous. C'est aussi de partir à la découverte de choses qu'on connaît pas forcément, surtout pour les enfants, ce qui est plutôt intéressant.
Samedi 1er juin, on prend la direction, alors toujours à Vezin, du parc de Boiré qui accueillera plusieurs propositions à partir de 14h30 et jusqu'en début de soirée. Des choses à contempler, des choses à réaliser aussi, souvent à plume. Faut peut-être commencer par replanter le décor un peu pour les auditeurs qui ne sont jamais allés au parc de Boiré, qui est un petit écrin de verdure dans la commune de Vezin-le-Coquet.
Tout à fait. En fait, Vezin est entouré de verdure et le parc de Boiré, donc c'est un parc qui est assez grand, mais quand même à taille humaine, dans le centre-ville de Boiré, donc à quelques petites centaines de mètres de la médiathèque et de l'église. Et donc l'idée, encore une fois, c'est d'être au plus proche de la nature. Et donc là, on fait cette proposition de venir et de passer toute une après-midi entourée d'arbres, de petits étangs aussi, et de commencer la journée avec un spectacle, de déambuler parmi plusieurs stands que je pourrais détailler après, et de terminer l'après-midi que j'espère ensoleillé avec un concert.
Une fanfare groovy dont on entendra un morceau dans un instant. Donc la fanfare se produira à partir de 18h dans le parc de Boiré. Et donc tout l'après-midi, plein de choses, des ateliers pour les tout-petits qui fonctionnent toujours bien, ateliers sensoriels. Il y aura aussi des ateliers créatifs même pour les plus grands. Une promenade avec des écologues, c'est ça, d'un bureau d'études.
Oui, tout à fait. Ça, c'est issu d'un budget participatif. Donc ce qui est intéressant avec cette proposition, donc c'est évidemment tout public, c'est de déambuler dans la ville et de découvrir ou de redécouvrir finalement sa ville par des experts, effectivement écologues, qui vont nous faire découvrir là où pourront être installés des abris pour les animaux ou les insectes. Donc en plus de cette promenade qui est à 16h30, l'idée donc c'est de déambuler en fait dans le parc, et je pense que le maître mot, enfin ou les maîtres mots, si je peux donner deux trois termes, c'est que les activités et les ateliers sont intergénérationnels. C'est vraiment pour tout le monde, c'est associatif, c'est le maître mot associatif. Il y a juste un magasin qui est Brin d'herbe, mais qui fait évidemment du sens, parce que voilà, Brin d'herbe, c'est un magasin qui fait du local, où on va discuter des producteurs du coin, pourquoi est-ce que c'est bien de consommer local et bio. Mais le reste, voilà, c'est très associatif. Et l'idée aussi, c'est que chacun et chacune y trouve son compte. Comme vous l'avez dit, il y a des ateliers pour les tout-petits, il y a l'intergénérationnel, il y aura aussi une exposition photo. Il y a...
Une sieste sonore, on ne l'a pas dit. Mais...
Tout à fait, exactement. Et en fait, ça sera des siestes sonores. L'idée, c'est de se mettre dans un transat. Donc, c'est la compagnie, le Centre de Découverte du Son, qui a fait des captures de son dans les forêts du Trégor. Et l'idée, c'est de se poser un peu à côté de tous ces ateliers, et voilà, de se reposer. Donc il y a vraiment des propositions très variées pour convenir à toutes et tous.
Caroline Dehaye, je vous représente. Vous êtes la directrice de la médiathèque du Tempo à Vezin-le-Coquet, à l'ouest de Rennes, qui porte donc cet événement, les Jardins Enchantés. C'est à vivre les 31 mai et le 1er juin à Vezin-le-Coquet. Le détail est à retrouver en ligne. Et on retrouvera donc, vous l'avez évoqué, mais le magasin de producteurs Brin d'herbe pour des conseils et de la vente. Et Aurélie Filoche, vous êtes vous la directrice du pôle citoyenneté, vie associative et communication à Chartres de Bretagne, qui organise l'événement J'agis pour ma planète. Là, c'est du 24 mai et jusqu'au 2 juin. Et puis, de la même façon, on peut retrouver tout le détail en ligne. Ce sont deux événements où tout ou presque est gratuit. Merci beaucoup.
you buy me a night on the town. I'm counting on you, Lord, please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round.
Everybody,
oh Lord, won't you buy me a night on the town. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. My friend, old drug porches, I must make amends. Well, talk.
Vous venez d'entendre le morceau Mercedes Brass Benz de Schizophonique. C'est une reprise d'un morceau de Janis Joplin, interprété là par une fanfare rennaise qu'on retrouvera samedi 1er juin aux Jardins Enchantés à Vezin-le-Coquet. La Reine, l'émission d'information locale de Canal B, se poursuit avec une rediffusion. Et vous allez entendre la rediffusion d'un reportage qui a été diffusé dans cette émission le 7 mai dernier. Direction l'Opéra de Rennes qui accueille une exposition des étudiants de l'association Cartel et du master Magémi, un master de gestion et mise en valeur des œuvres d'art, des objets ethnographiques et techniques. Il nous propose jusqu'au 29 juin de découvrir des marionnettes et leurs liens avec les artistes de compagnie de la région rennaise. Des visites guidées sont possibles et c'est gratuit. Pour plus d'infos, il y a le site Magémi.
Ici, on a fait un focus sur un propos un peu plus scientifique, universitaire, qui est sur l'art total, parce qu'en effet, les arts de la marionnette, depuis le XXe siècle, ce n'est pas que de la marionnette, ça inclut aussi d'autres disciplines artistiques, comme du cirque, du théâtre, de la danse. Alors du coup, la création contemporaine fait que maintenant, il y a plein de nouvelles techniques qui se raccrochent, comme du mime, de la vidéo, tout en gardant des influences beaucoup plus traditionnelles. Et pour citer par exemple un exemple, on a la compagnie Philippe Gentil, créée en 1968, qui se base énormément sur le monde du rêve et qui reprend les codes du théâtre, de la musique et de la danse.
Bonjour, moi c'est Sarah Lemercier et je suis étudiante en Master 2 Magémi, qui signifie gestion et mise en valeur des œuvres d'art, des objets techniques et ethnographiques.
Bonjour, moi c'est Lily Poitou et je suis également étudiante en M2 Magémi. On est 13 personnes dans le master, on vient tous de formations différentes. Donc il y a des personnes qui viennent d'histoire de l'art, d'histoire, d'art plastique, d'humanité et de lettres. Et on est tous venus au sein de ce master, je pense, pour se destiner donc, au monde de la culture et du patrimoine. Ça nous ouvre beaucoup de portes, donc au métier de conservateur, au métier de muséographe, de médiateur, de régisseur, et on a également des possibilités après de se diriger vers la communication culturelle, l'administration culturelle.
Donc notre expo s'appelle « Désarticuler la marionnette et son artiste ». Elle se déroule à l'Opéra, elle a ouvert jeudi 2 mai et se termine le samedi 29 juin. En début d'année, on a notre directrice de master qui nous a proposé ce thème, la marionnette. Et ensuite, nous, on a choisi le point qu'on souhaitait aborder par rapport à ce thème. Donc nous, on a voulu se diriger vers la marionnette et son artiste, c'est-à-dire le rapport qu'il y a entre le marionnettiste et la marionnette en tant que partenaire de jeu.
Est-ce que personnellement, vous deux, c'était un art que vous connaissiez ? Est-ce que vous avez été dans la découverte ?
Moi, personnellement, je ne connaissais pas très bien. Ça a été beaucoup de découvertes parce que c'est vrai que j'ai fait un tout petit peu de théâtre, mais la marionnette, vraiment, c'était une totale découverte du sujet.
Également pour moi, et je pense comme la majorité de la promotion, on savait très peu de choses sur la marionnette. On avait surtout des clichés en tête, comme Guignol, les Castellets, ce genre de choses, que ça se rapprochait de l'enfance. Et nous, justement, ce qu'on a voulu montrer dans notre exposition, c'est que c'est aussi un sujet qui peut s'adresser aux adultes avec des sujets plus graves, plus sensible.
Vous me dites comment est-ce qu'elle a été construite, cette exposition, et puis avec qui ?
Alors, cette exposition, elle est soutenue par l'association Cartel. Et en fait, c'est une association qui est composée des membres de la promotion. Donc Lily et moi, on en fait notamment partie. Lily est coprésidente et moi, je suis trésorière dans cette association. Et sinon, tout au long de l'année, on est suivi par plusieurs professeurs référents, dont Florence Duchemin-Pelletier, qui est maîtresse de conférence à l'Université Rennes 2, ou encore Agnès Levillain, qui est muséographe. On a également Rosaine Chambard, qui nous a énormément aidés en termes de communication, notamment pour le dossier de presse.
Aussi, on est également accompagné par exemple de Gilles Debroise, qui est graphiste, et aussi d'Éric Verrier, qui est aussi scénographe, et aussi de Turian Dion, qui est médiatrice. Donc en fait, on a une équipe très complète qui nous a accompagnés tout au long de l'exposition. Et on a aussi un comité scientifique donc, qui est composé d'Aurélie Montourezouk et de Raphaël Fleury, qui sont deux spécialistes de la marionnette, donc qui nous ont apporté des connaissances plutôt historiques sur le sujet et vérifié aussi nos propos. C'est au début de l'année qu'on les a rencontrés. Vraiment, ça nous a plongé dans le sujet dès le début.
Alors ces marionnettes sont composées de mousse, de toile de jute et leurs visages avec des traits assez précis sont faits à partir de masques de plastiline. Et c'est notamment ces traits très humanisés qui permettent aux spectateurs de ressentir de l'empathie, de la gêne et tout un tas d'émotions.
On est donc avec un parcours qui va dresser des portraits de marionnettes pour explorer les liens entre l'artiste et puis ces marionnettes. Comment est-ce qu'on peut décrire le parcours ?
Alors, le parcours commence avec évidemment une introduction. En face de cette introduction qui présente l'intention de l'exposition, on a ce qu'on appelle nous un data circle. C'est en fait un élément de médiation qui permet au début du parcours de relier avec un fil une notion auquel le visiteur peut se rattacher sur les préjugés qu'il peut avoir sur la marionnette. Et en fait, notre parcours se termine par le même endroit, c'est-à-dire que le visiteur rentre et sort par la même porte. Et du coup, au retour de son parcours, il peut rattacher une nouvelle notion pour voir s'il a pu découvrir de nouvelles choses sur la marionnette dans notre exposition. Et du coup, cette exposition, elle se compose autour de 3 portraits. Elle est thématique, on n'a pas de chemin prédéfini en particulier. Donc on a un premier portrait avec Sapiens, qui est un spectacle de la Trollatique Industrie, qui traite des dérives scientifiques et qui montre les bouleversements qu'il peut y avoir entre les rapports de domination entre l'homme et les autres espèces. Alors dans cette box, ce qu'on peut retrouver, c'est notamment notre marionnette star qui est l'homme cobaye. Alors c'est un homme vraiment dont le destin est scellé par des singes scientifiques. C'est pour ça, d'où le début, on parlait de renversement de valeurs, notamment entre créateur et créature. On a également à côté de lui justement un masque de singe scientifique que les marionnettistes portent pendant le spectacle. Il faut préciser que c'est un vrai effort physique de porter un masque tout au long. Et à côté, on retrouve le fruit d'une expérience scientifique. C'est à la fois un mi-homme, mi-singe.
Oui, ça fait écho forcément au fait que les singes sont des animaux utilisés pour des expériences scientifiques.
Et juste à côté, du coup, vous allez avoir des images en fait, de la banque, que nous, ce qu'on appelle un laboratoire marionnettique. C'est un lieu situé à Redon. C'est là où les marionnettistes de Drôlatique créent leurs marionnettes, mais également les exposent. Parce que pour eux, c'est important de les immortaliser dans le temps et les faire perdurer même après eux. On a également Kamikaze, lui, qui a été produit par la compagnie Scopitone et qui touche au sujet post-attentat de 2001. Alors contrairement à nos autres marionnettes, celles-ci sont beaucoup plus petites, parce qu'il faut préciser que les autres sont quand même assez grandes. Alors les amants, ce sont deux petits poupons dont la tête est composée de coquetiers.
Ce sont des marionnettes à tiges et elles sont posées sur un bureau d'écoliers en bois, car tout le spectacle, en fait c'est un spectacle de marionnettes sur table. Et on peut voir donc le derrière de la box qui est entièrement tapissé de boîtes d'œufs. Car les boîtes d'œufs représentent dans le spectacle en fait une montagne, un Everest que les amants doivent gravir ensemble. Et on peut voir devant eux donc un œuf. Et cet œuf représente donc le but ultime à atteindre.
Leur quête.
C'est un peu leur quête, exactement. Ils tiennent l'œuf entre leurs têtes de coquetier et ils montent peu à peu avec l'œuf sans le casser. Et c'est vraiment ce cheminement et cette ascension qui est importante.
Et pour ajouter un point donc sur la place de l'artiste, on lit juste à côté que le marionnettiste là, ne cherche pas à se cacher derrière ses marionnettes, mais que sa présence est éclipsée par la force d'animation de celle-ci, qu'il considère comme ses partenaires.
Le marionnettiste, il s'appelle Cédric Ingwe, qui est établi à L'Heureux, juste à côté de Rennes. Donc, il y a une vraie symbolique derrière cet œuf. On peut lui attribuer la symbolique de l'humanité ou alors de la fertilité. Comme là vous pouvez le voir, ce qui constitue les marionnettes finalement, ce sont des objets du quotidien. Et on s'est rendu compte à la suite de nos études que finalement tout pouvait être marionnette. Le théâtre d'objets, on a pu le voir, il s'est véritablement installé dans les années 1980 à l'ère de la consommation massive et de l'objet jetable, du plastique. Et ça vient finalement réinterroger notre rapport à l'objet.
Et enfin, on a Landru, produit par Antonin Lebrun et Johan Pancollet, qui est maintenant directeur de La Poupée qui brûle, et qui traite d'un tueur en série qui a commis de nombreux féminicides.
En premier plan, nous avons la tête guillotinée de Landru. Donc, c'est un Landru qui est venu revivre son procès 100 ans après le premier. Il est posé sur un grand socle, vu que, ce n'est qu'une tête, il faut qu'il soit mis en avant, et il est placé aussi derrière une barre de l'accusé. Et à ses côtés, on peut trouver trois personnages qui sont aussi représentés par des têtes, qui ont les yeux écarquillés, la bouche ouverte. Donc on peut retrouver son amante, Fernande, qui était présente lors du procès. Il y a également le commissaire Jumelin, donc, qui était le commissaire en charge de l'enquête et qui a été fait à l'effigie du marionnettiste qui l'a créé. Et aussi, nous avons donc Charles, le fils de Landru, qui a été suivi psychologiquement à la suite du procès de son père. Du coup, ils sont faits totalement en mousse de matelas et en fait, ils ont été peints au feutre à alcool. Et Landru, il a une spécificité, sa bouche, ses sourcils et ses yeux peuvent bouger.
Et on a également du théâtre d'ombre, en fait, dans le spectacle que l'on retrouve ici, en fait, pour remettre Landru dans le contexte de son époque, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale. Et en fait, on a des soldats, vous voyez, qui ont une tête un petit peu de rat pour montrer vraiment ce côté déshumanisant, en fait, hein, de la guerre. Ensuite, l'affiche du spectacle, avec une inspiration en fait de l'expressionnisme allemand. On y retrouve bien sûr Landru, ces fameux poilus déshumanisés, les nombreuses femmes tuées par Landru, et puis aussi cette foule qui était complètement en fascination en fait face à ce tueur en série. Puisque en fait ce spectacle, c'est pas juste une remise en scène du procès, c'est aussi une remise en question de toute cette fascination qu'on peut avoir pour le morbide. Et donc, quoi de mieux qu'une tête pour représenter un homme décapité ?
Il était une fois un homme qui avait de belles maisons. De belles maisons à la ville et à la campagne aussi. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue et les sourcils broussailleux.
Un poilu, quoi.
Silence, je fais évacuer la salle.
Vous avez donc du coup été en lien avec des compagnies artistiques qui vous ont prêté leurs marionnettes. Comment s'est passée cette relation-là avec les compagnies ?
Du coup, on a commencé en allant les voir une première fois, donc on les a rencontrés, on a pu discuter longuement avec eux. Et c'est vrai qu'assez vite, on a senti un feeling passer. Et il y a des propositions qui se sont faites sur des marionnettes, des spectacles qui n'étaient plus joués, donc qui pouvaient nous prêter. Ensuite, lorsqu'on a sélectionné les compagnies qu'on voulait exposer, on est allé les voir une seconde fois. Où là, en fait, on y allait avec nos caméras et nos micros pour enregistrer le témoignage oral qui nous a permis donc de recueillir leur voix. Et donc ces entretiens, ils sont visibles dans l'exposition. Et ensuite, on les a vus une troisième fois pour aller chercher les œuvres et ils sont venus nous aider à installer l'exposition.
Je crois qu'il y a une des marionnettes qui est amenée à être utilisée dans un spectacle qui est encore à venir, je crois, en 2025.
En fait, c'est Kamikaze. Quand on parle de, justement de rapport entre le marionnettiste et, sa marionnette, en fait, Kamikaze, Cédric Ingouët, le concepteur, est tellement attaché à ses marionnettes qu'il a voulu produire une suite au spectacle. Le spectacle s'intitulera Violence, avec de nouvelles marionnettes qui feront suite à son spectacle précédent.
Ce qui nous a surpris, je pense, c'est la complicité du marionnettiste avec sa marionnette. C'est vrai qu'il y en a qui les sacralisent un petit peu moins. Ça veut dire qu'après la scène, ils vont les ranger dans des boîtes et puis ça va simplement redevenir des objets. Mais il y en a d'autres qui continuent de vivre avec leur marionnette, vraiment ils sont attachés à elle. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant comme relation, parce que quand ils sont sur scène, ils disent vraiment qu'ils sont partenaires, qu'ils se donnent corps et qu'ils se donnent voix. Et c'est vrai que quand on est allé les interviewer, c'était très intéressant parce qu'ils ont fait des démonstrations. Et on a vu à quel point, dès qu'ils mettaient la main dans la marionnette, le personnage devenait vivant, la marionnette devenait vivante. Et c'est vrai qu'il y a un jeu qui est très fort, on a trouvé.
Vous avez imaginé plusieurs prolongements à l'exposition qui a avoir jusqu'à la fin du mois de juin. Je vous laisse les annoncer.
Alors, ce soir, donc mardi 7 mai à 20h15, on a la projection de Interdit aux chiens et aux Italiens, réalisée par Alain Huguetto, au cinéma L'Arvor. Cette projection, elle sera suivie d'un ciné-rencontre avec Mathieu Courtois, qui est producteur au sein de la société Vivement Lundi, qui a produit justement ce film. Le producteur va notamment amener une des marionnettes stars du film. Donc on a hâte de voir ça. Vendredi et samedi prochain, on a des visites guidées à 13h30 et à 14h30 qui seront menées par moi-même et par Johan Claret, un autre membre de la promotion. Et la semaine prochaine, l'opéra accueille Les Ailes du Désir. C'est mis en scène par Joanne Hibert. Joanne Hibert, c'est un metteur en scène. Et au sein des Ailes du Désir, il y aura des marionnettes. Et c'est notamment pour ça qu'en fait l'opéra a accueilli notre exposition, parce qu'en ce moment en Bretagne, il y a un vrai vivier autour de la marionnette. En début de semaine, il y a notamment eu les états généraux de l'association TEMA, qui est l'association nationale pour le théâtre des marionnettes.
Le groupe Horseface sur Canal B avec le titre Lassi Mieka. C'est une sélection musicale de Yann, notre programmateur ici à la radio, à retrouver sur un album Sanna Kirjan Takana. Ça doit être du suédois, c'est sorti en 2022. Et c'était le deuxième disque pour ce Kraftwerk suédois, donc que vous retrouverez sur la scène du Pipe à la Pop Festival, un événement qui a lieu les 8 et 9 juin au Jardin Moderne ici à Rennes. Vous écoutez La Rennes, l'émission d'information locale de Canal B. Canal B, tiens, qui fête ses 40 ans cette année. On vient de sortir un programme de réjouissance à retrouver en ligne sur canalb.fr. Et dès cette fin de semaine, on lance les festivités avec 40 heures de direct vendredi et samedi. C'est à écouter évidemment sur le 94.0, mais aussi dans différents lieux publics de la ville. Le détail, encore une fois, c'est en ligne. Avant de se quitter, la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est quoi ? Eh bien, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils modestes, d'événements à vivre près de chez vous, aussi parfois des recommandations lecture, podcast ou encore documentaire. Aujourd'hui, on annonce un événement aux ombres électriques à Rennes. Le fou artistique, psychiatrie, marge et résistance. C'est le nom de la proposition. À vivre sur deux jours, là, ce mercredi 22 et puis jeudi 23 mai, à chaque fois de 18 à 22 heures. Une façon de penser l'institution psychiatrique et sa capacité à prendre en compte les marges plutôt que de faire l'outil d'un capitalisme jugé délétère et d'une logique d'oppression. Cette semaine, c'est en fait le premier d'une série de rendez-vous sur ce thème, proposé en compagnie de Cœur Esquem, une danseuse et puis de la structure Justice Transformatrice. Ce mercredi, vous avez encore le temps de courir aux ombres électriques à Rennes, avec au programme la projection du film Le Divan du Monde de Swen de Pau, suivi d'un buffet de discussion.
Est-ce que je pourrais pas me mettre à votre place, parce que c'est pas mon beau profil?
Ouais, vous voulez?
Oui.
On peut. Je me sens un petit peu tout con, là. Je suis plus bas que vous.
Je suis en hauteur.
Oui. Ah, mais c'est drôle ça.
Ouais.
Oui, c'est quoi ce plan? C'est quoi ce plan foireux là, du docteur qui met les fauteuils plus bas?
J'en sais rien, c'est vous qui les avez réglés.
Mais, ben.
Et puis demain, jeudi 23 mai, toujours en soirée, mission politiser le mal-être, rien que ça, avec une analyse des discours d'un psychiatre qui s'appelle Georges Federman. Le détail est à retrouver sur l'agenda des luttes, j'ai nommé Démosphère. C'est terminé, une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.